Ils sont près de 400. Ce sont les hommes et les femmes de l'ombre de cet événement. Sans eux, rien n'est possible. Eux, ce sont les bénévoles de l'Armada. Comment cela fonctionne-t-il? Quelles tâches leur sont assignées? Pour le savoir, nous avons rencontré Philippe Chastre, le vice-président de l'Armada en charge de la communication. En prime, on lui a également parlé de l'accessibilité de l'événement. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Normand. Nous sommes toujours depuis une semaine déjà en train de couvrir l'Armada. Et aujourd'hui, dans ce cadre, nous sommes avec Philippe Chastre. Bonjour.
Bonjour à vous.
Qui est donc le vice-président de l'Armada en charge de la communication.
C'est exact.
Donc, est-ce que vous pouvez peut-être brièvement rappeler à nos auditeurs quelle est votre fonction et quelles sont vos tâches?
Eh bien, mes fonctions de vice-président en charge de la communication, c'est d'organiser toute la communication en 360 degrés, je dirais la communication globale dans tous les domaines, du dernier jour de la précédente armada, c'est-à-dire en juillet 2019, on a réattaqué l'armada 2023. Et on a constitué petit à petit une équipe. Chez moi, par exemple, on est une trentaine de bénévoles avec des missions différentes les uns des autres que je pourrais détailler tout à l'heure. Mais c'est comme ça que toutes les divisions de l'Armada, il y en a six, ont fonctionné. Il y a une division donc communication que je représente, une division animation où je crois il y a à peu près 200 bénévoles, une division technique, une division sécurité, une division culture, une division maritime, tout ce qui concerne les navires, et une division finance, gestion, ressources humaines, etc.
Oui, donc c'est très intéressant. On va revenir sur chacune de ces parties au cours de cet entretien. Mais vous m'avez dit, donc, vous avez commencé en fait le travail sur l'armada suivante dès la fin de la dernière armada. Donc, la dernière armada en 2019, dites-moi à peu près, on est donc le dernier jour de la dernière armada en 2019. Après, concrètement, il se passe quoi? C'est-à-dire qu'on remballe tout, les navires partent, et après, pour vous, il se passe quoi?
Alors, après, pour nous, par exemple, ici, nous sommes logés au PC Press, oui, qui est un terminal croisière. Eh bien, nous allons rendre le terminal croisière au port, et avec mon équipe de bénévoles, eh bien, on va refaire le déménagement. Ici, c'est les meubles loués, tout est loué. On réemballe, on enlève le matériel, on rend nos ordinateurs à la division technique et on laisse place nette. Et ensuite, l'équipe va se réunir pour faire un premier bilan, un retex, un retour d'expérience. Et ensuite, nous allons attaquer lundi ou mardi le solde des factures à payer.
D'accord. Et donc, vous m'avez dit, vous avez une trentaine de bénévoles qui travaillent avec vous. Donc, depuis 4 ans... Sur donc cette armada. Et donc après donc ce que vous venez de me dire, il y a j'imagine de la planification, on commence à travailler avec, j'imagine, parce que moi j'ai discuté avec pas mal de personnel navigant, les timings sont très serrés et ça se prépare des années à l'avance dans les calendriers de navigation. Comment est-ce qu'on prépare ça, par exemple, pour s'assurer que tel ou tel navire sera bien présent à l'événement?
Alors ça, c'est la division nautisme maritime qui s'occupe de cela. Et elle, son travail, ça va être d'aller à des réunions internationales, qui est la SEAL Training International. La dernière s'est tenue, je crois, au Baléares.
D'accord.
Celle d'avant à Cadix. Et en fait, il s'agit de présenter à cette internationale de rassemblement de grands voiliers le programme 2027.
D'accord.
Et là, on vient avec une plaquette de documentation, on présente en anglais tout ce qu'on a fait depuis 1989.
D'accord.
Et on leur donne confiance pour les nouveaux armateurs ou les nouveaux capitaines, toutes les raisons qu'ils ont de venir.
Mais il y a encore, vous dites, des armateurs et des capitaines de navires qui ne connaissent pas l'Armada, le rassemblement, le plus grand rassemblement de voiliers du monde.
Eh bien, ce sont en général soit des armateurs qui viennent de racheter un navire,
d'accord,
qui demandent à être convaincus, ou des capitaines parce que les capitaines changent, ils prennent leurs fonctions, ils ont entendu parler de l'armada, mais ils veulent le toucher du doigt, donc ils veulent d'une manière concrète qu'on leur réexplique comment ils vont être accueillis, comment ça va fonctionner, comment le ravitaillement va se faire à bord pendant l'armada, comment sont organisées les réceptions, et bien sûr il y a une discussion sur le coût, puisque vous savez que chaque navire pour venir à l'armada se fait payer. Donc une négociation commerciale qui commence.
Et on peut dire combien, quel est le prix, combien certains navires peuvent se faire payer.
Ou oui, c'est oui, secret, tout à fait. Il n'y a pas de secret. Non. Les navires se font payer entre 10 000 à 30 000 euros par jour.
D'accord. Ça dépend, j'imagine, le tarif doit dépendre du prestige du navire.
Non, pas du tout. Ça dépend de la taille,
d'accord.
Le nombre de personnes qu'on peut recevoir à bord.
D'accord. Et donc vous m'avez dit il y a une division. Donc là on a parlé de tout ce qu'est la division donc nautisme qui va prendre ça en charge. Vous me dites donc il y a votre division communication avec donc 30 bénévoles et on va passer par exemple à celle de l'animation. Alors en quoi ça consiste? Quel est son travail et ils sont combien à cette
fois? Oui, ils sont très nombreux. Alors au départ, ils sont un petit groupe comme chez moi, hein, d'une dizaine.
Oui.
Ils essayent d'imaginer ce que va être l'armada future, quel type d'animation ont marché. Eux aussi, ils font d'abord un retour sur expérience et ils essayent d'améliorer. Par exemple, est-ce qu'on va faire plus de beach volley ou est-ce qu'on va faire du basket? Est-ce qu'on change un peu les animations pour les marins, pour les visiteurs? Voilà, il y a tout un travail de réflexion de trouver des partenaires comme Decathlon, par exemple, cette année, pour pouvoir assumer les frais d'organisation et de location de matériel.
Justement, question très intéressante. Combien comptez-vous de partenaires pour cette édition exactement?
126.
On traite un peu finalement tous les secteurs, hein, moi de ce que j'ai vu, aussi bien donc du nautisme que du vêtement
et, il y a de tout.
Et plein d'autres choses. Tout le monde a envie de s'associer
à l'armada.
À l'armada.
Donc, on fait ce qu'on appelle pas du benchmarking, mais on pourrait dire chacun se compare et chacun après essaye d'associer sa marque à la marque Armada.
Oui. Est-ce que par hasard, on vous demande d'être partenaire de l'Armada ou est-ce que c'est vous qui venez les chercher? Est-ce que parfois vous en refusez, vous en acceptez? Comment ça se passe exactement?
Ah bah il y a pour beaucoup de, on va prendre l'exemple du textile.
Oui.
Eh bien, par exemple, pour avoir le droit de faire des pullovers, des chemises, des polos, des casquettes, etc., il y a un appel d'offres qui est lancé et il y a plusieurs entreprises qui se positionnent. Et il y a une commission de bénévoles, dont c'est souvent l'ancien métier d'avoir fait ça auparavant, qui vont sélectionner le partenaire qui va être retenu. Mais
d'accord.
En général, il y a pas mal de gens qui se battent pour être partenaire.
Oui. Et il faut que ça colle justement à une image de marque de l'Armada qu'elle veut défendre. Il y a des partenaires qu'on souhaite plus avoir, il y a des partenaires dont c'est moins intéressant pour votre image. Comment ça se passe?
Ça dépend des besoins qu'on a. Par exemple, pour la grande pagaille, on a besoin de grue. On va donc essayer de trouver un partenaire grue.
Oui.
Là, c'était Ponticelli. On a besoin, par exemple, dans le textile, eh bien, la marque maritime et normande va beaucoup jouer.
Oui.
Même s'il y a des entreprises très compétentes en Bretagne, on a choisi cette année une marque célèbre qui est Saint-James, qui est une marque normande. Donc, il y a une série de paramètres qui jouent. Il n'y a pas que la contribution financière.
Justement, très bonne transition, en fait, vous en parlez, Saint-James, donc une marque normande, le Made in France, le local dont on part, on sait très bien que on ne peut plus, c'est Jean-Paul Rivière, lui, Monsieur Rivière, qui le président de l'Armada, qui me l'avait dit lui-même, on ne peut plus organiser un événement de cette nature sans prendre en compte des données écologiques, produire plus éco-responsable. Donc, c'est des données qui sont, j'imagine, très importantes pour vous.
Ah oui, ça fait partie des critères fondamentaux, on pourrait dire même prioritaires, avant de passer un accord avec une entreprise pour être partenaire.
La partie sécurité, donc quel est exactement son rôle?
Alors la commission sécurité, elle va réunir des spécialistes de la sécurité et qui vont sélectionner l'entreprise qui va faire le gardiennage du site.
D'accord.
Pour gardienner le site qui est fermé, donc c'est-à-dire qu'il y a un filtrage qui est fait aux entrées, eh bien il faut à peu près 300 surveillants, gardiens, je sais pas comment on peut les appeler.
Oui.
Et donc cette commission va les sélectionner. Mais non seulement elle va sélectionner une entreprise, et ensuite elle va organiser le contrôle de la prestation qui est fournie.
Oui, et donc là par exemple, vous me dites, il y a combien de personnes chargées de la sécurité qui sont présentes en permanence sur le site?
Alors en permanent, je sais pas, mais sur 24 heures, je pense qu'on doit pas être loin de plus de 200.
D'accord. Ajouter à cela, bien sûr, je pense qu'on les ajoute à cela. Il y a 480, pardon, policiers et gendarmes
C'est
qui sont
ça,
présents
exactement.
Sur site en permanence pour assurer notre sécurité et on les en remercie.
Absolument.
Et j'imagine donc, en termes de sécurité, donc ce que je parle de avec les officiers de sécurité, qu'ils soient privés ou publics, ça se prépare combien de temps en amont un événement pareil?
Alors, comme il faut des autorisations préfectorales pour avoir le droit d'ouvrir cette manifestation, on remplit un document qui doit faire à peu près 300 pages sur tous les aspects techniques, organisationnels de l'événement qui est soumis à la... c'est nos équipes de bénévoles de la sécurité et de la technique qui travaillent ensemble, qui va présenter un plan d'occupation des navires, d'occupation des stands, des animations, de tout ce qui va se passer à l'intérieur du territoire des quais qui nous sont concédés par Aeropaport. Et là, la préfecture va donner son aval ou pas. Donc jusqu'à
D'accord.
maintenant, elle a toujours donné parce qu'on sait faire. Et puis, également, elle regarde en fonction d'une discussion comment paramétrer le nombre de forces de police qu'il faut. Là, effectivement, en ce moment, on est autour de 500 hommes jouant.
D'accord. Et donc, ça s'organise, j'imagine, pour compléter ce que vous venez de dire, en fonction des risques dont fait face le pays actuellement, des conditions aussi et de l'environnement sécuritaire qui règne actuellement dans notre pays, en fonction des recommandations, je l'imagine, du ministère de l'Intérieur.
Absolument, absolument, c'est exactement cela. Suivant le degré de risque terroriste ou attentat, eh bien, on dimensionne la protection du site.
Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous dire, dans telles conditions, risque d'attentat trop élevé, ou même coronavirus, on sort de l'épidémie de Covid, il est impossible, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être, on peut dire qu'il est impossible de faire l'armada dans ces conditions?
Certainement, s'il y avait eu l'épidémie de Covid juste avant d'ouvrir l'armada, on n'aurait pas ouvert. Du reste, c'est ce qui est malheureusement arrivé à nos amis de Brest, qui ont dû annuler leur manifestation qui avait lieu au mois de juillet, 2 mois avant.
Bien sûr. Et donc, on va venir sur la dernière, comme vous venez de dire, l'équipe technique. Et donc là, j'imagine qu'on est dans l'aspect logistique, tout ce qui est mise en place des quais, des traiteurs, plein de choses, etc. Qu'est-ce que vous pouvez en dire?
Alors, là, pour tout ce qui est de l'aménagement des sites en termes de stands, par exemple, que vous voyez sur les quais,
oui.
Eh bien, c'est la société Normandie Événements à qui on délègue l'autorisation de louer des tentes à ce qu'on appelle chez nous, on va dire des commerçants, des non-sédentaires, qui sont spécialisés justement dans ce type d'événement. Donc, Normandie Événements devient une sorte de délégataire de l'armada.
D'accord. Et donc, c'est cette entreprise qui a effectivement la charge, en fait, d'organiser l'événement sur le plan technique. Alors, pour être...
Alors, pas tout à fait sur le plan technique. Elle a la charge de vendre des espaces, de monter des tentes. Et nous, notre travail, ça va être de travailler sur tout ce qui est et la division technique, le raccordement de ces tentes, de ces restaurants à l'eau, à l'électricité, l'évacuation des eaux usées, etc., etc. Parce qu'ici, on a une ville qui vit. Il y a 2000 marins qui sont là, il faut organiser le ravitaillement, l'organisation du ramassage des poubelles.
C'est bien de le rappeler, hein. C'est
etc.
une ville dans la ville.
C'est une ville dans la ville.
C'est une ville dans la ville. Vous m'avez dit, en plus, vous me l'avez dit en préambule de cet entretien, vous préparez déjà l'armada qui va suivre. Donc, celle-ci se termine dans 3 jours, 2023. Est-ce que vous êtes en mesure de me donner la date de la prochaine armada?
En 2027, au mois de juin.
Et la date précise, vous l'avez ou vous ne l'avez pas?
On l'a en tête, mais on sera en discussion certainement avec les collectivités locales. Les événements qui se passent en 2027, je pense qu'il y a une présidentielle en 2027.
C'est ça qui aura lieu au mois, entre avril et au mois de mai.
Oui, voilà, donc on regarde quelle est la meilleure date. Moi, je pense qu'honnêtement, elle aura lieu au mois de juin. C'est quand même une date idéale et à peu près dans les mêmes dates, on peut penser, parce que c'est lié à la marée aussi.
Parce que au mois d'octobre, Monsieur Rivière m'avait dit qu'elle pourrait éventuellement avoir lieu du 10 au 20 juin 2027.
Par exemple.
Par exemple, mais voilà, c'est pas encore quelque chose qui est déterminé. Il y a un aspect un peu particulier sur lequel c'est ce que je dis toujours à longueur d'épisode à beaucoup de gens, on ne communique pas
ne communique pas souvent, c'est l'aspect accessibilité, en fait, aux personnes à mobilité réduite. Vous savez que probablement que le podcast normand y accorde une large part de sa ligne éditoriale. Qu'est-ce qui aujourd'hui, donc, il ne s'agit pas, bien entendu, de faire de démagogie à votre égard. Il n'est pas question de vous dire qu'il faut adapter chaque navire construit entre la fin du 19e siècle pour le Belém ou parmi les plus récents, celui de la Normandie en 2018. Il ne s'agit pas de faire de la démagogie. Il s'agit de dire qu'est-ce qui aujourd'hui est fait ou peut-être mieux fait pour que aujourd'hui et demain, une personne qui a par exemple beaucoup de mal à marcher puisse profiter d'une expérience, on va dire, tout au mieux idéale, lors d'une armada.
Alors, sur cette question-là, qui est une question extrêmement importante, je pense que à chaque armada, on a essayé de progresser, mais la marge de progrès est encore grande. Alors, il y a beaucoup de difficultés. D'abord, on est face à des quais qui sont à peu près réguliers, mais pas entièrement réguliers. Oui. Il y a encore à certains endroits des tuyaux qui passent pour l'évacuation des eaux usées pour se raccorder au tout à l'égout. C'est une complexité. On a comme problème l'accessibilité sur les navires, comme vous l'avez dit. Suivant la marée, là on vient de me raconter que sur le Pascal Flores, eh bien, même pour des gens totalement valides, eh bien, la passerelle pour accéder au navire, elle tangue et elle est tellement penchée qu'on a annulé la réception sur ce navire.
D'accord, oui.
Parce que à marée basse, c'est pas possible. Donc chaque navire a une technicité particulière qui est liée à ce. Il n'y a pas un navire qui se ressemble. Premier problème. Deuxième problème, quasiment tout doit se faire à pied. Il y a pas donc. On avait réfléchi un moment à un petit train qui a existé une époque, mais très très difficile à faire, qu'il n'y ait pas d'accident, passer dans la foule, c'est très compliqué. On avait pensé à une époque avoir prêté par toute une série de golfettes, mais il en fallait au moins une quarantaine pour. Donc on voit bien. Mais il y a des réflexions en cours. Je donne un exemple.
Oui, allez-y.
Par exemple, on a des ascenseurs au pont Flaubert. Oui. Si on est juste avec une béquille, on doit pouvoir passer.
Ouais.
Mais encore, faut-il que les gens respectent que c'est simplement 5 à 6 personnes par ascenseur.
Oui, bien sûr.
Donc, on voit, il y a une multitude de problèmes pour ce type d'événement.
Ouais.
Et encore, il y a en plus des endroits, je pense aux concerts, là derrière nous, le PC Press, il y a encore beaucoup de graviers. Il faut voir que, à l'origine, là où on est, c'était un lieu de travail avec des hangars de travaux, pas du tout fait pour adapter à recevoir du public. Et d'autant plus que cette année, il y a eu un drame, qui est le fait que nos amis du Tenacious, qui est vraiment le grand voilier adapté au handicap, n'a pas pu être présent car il est en grande difficulté financière en Angleterre. On avait fait tous les efforts pour qu'il vienne parce qu'il permettait, même à des handicapés moteurs, même en fauteuil roulant, d'accéder très facilement à bord. Tout avait été conçu pour ça. Et c'est vraiment dommage parce que les autres bateaux, c'est vraiment très très difficile. Par contre, et j'ai trouvé ça formidable ce matin, j'ai vu des accompagnements de personnes aveugles, non-voyants, et avec un guide qui expliquait ce qu'il y avait sur les quais. C'était vers 8 heures ce matin. C'est assez émouvant. Et donc, on a permis effectivement à ce groupe de rentrer, d'être accueilli dans les meilleures conditions. Mais il y a encore beaucoup de travail. Mais peut-être, en disant ça, on sait qu'on n'arrivera pas à le rendre totalement accessible, ce lieu. Il sera toujours difficile.
Je pense, bon là, on est plus dans l'échange que de poser les, questions.
Mais y a pas de...
Je pense que, encore une fois, c'est ce que je vous redis dès le départ, et moi-même, en tant que personne à mobilité réduite, il ne s'agit pas de faire de la démagogie et dire qu'on rendra accessible chaque bateau. Ce n'est pas possible et ça serait mentir et ça serait même... ridicule. Non, je pense qu'en fait, il faut pouvoir avancer, gravir, pardon du jeu de mots, mais marche après marche, en quelque sorte.
Oui, voilà, exactement.
En ayant une prise de conscience peut-être encore un peu plus accrue à chaque édition. Moi, il y a un point où je voulais revenir, c'est personnel. Vous le transmettrez, vous le transmettrez pas si vous connaissez pas le préfet, mais je tiens quand même à le dire. C'est au point de vue des autorisations aussi. De circuler, par exemple, quand je suis allé, je crois, sur le Johanna Saturna, il m'a semblé que, en fait, on avait réussi donc à faire affréter un bus pour partir à Duclair, mais par exemple, au retour, quand il a accosté rive gauche, j'ai dû faire 3 km à pied parce que je ne pouvais pas sortir du périmètre, qui est quelque chose de très compliqué, et de, en fait, négocier, de pouvoir accéder avec un vélo électrique ou quelque chose qui permet à des personnes à mobilité réduite, qu'ils soient journalistes, d'autres le grand public. Je pense qu'il y a aussi quelque chose à faire au niveau des autorisations, parce que ce n'est pas toujours très clair, et parfois, je dois dire que terme même de signalétique, on ne s'y retrouve pas forcément.
Vous avez deux raisons, c'est une marge de progrès qu'on a indiquée tout à l'heure, et c'est pour ça que je disais que à la fois pour accéder proche des bateaux et pour, comme vous venez de dire, que quelqu'un qui revient d'un voyage de presse, mais peu importe qui, qu'on puisse accueillir avec une flotte de golfettes, c'est dans les réflexions avec des associations pour permettre à ceux qui ont des mobilités réduites de visiter le site. Mais c'est la même façon, à mon avis, que la réflexion doit s'engager sur l'état du site. C'est-à-dire qu'il y a un énorme progrès à faire sur toute la partie qui n'est pas sur lequel il y a encore énormément de gravier, qui rend très difficile la circulation. Et d'autre part, je pense qu'il y a un travail également spécifique à faire en termes de vélo électrique, ou peut-être même de ce qu'on appelle le cargo vélo, pour permettre à l'intérieur au moins de déposer au plus près des bâtiments. Voilà. Bon, mais c'est quelque chose de extrêmement complexe, puisque ça demande un travail individuel quasiment.
Oui.
Mais on devrait y arriver. Il y a des pays qui arrivent, donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive
mais
pas.
Mais ça fait partie.
J'étais à Amsterdam. Oui. C'est beaucoup plus facile, mais les quais sont plus grands et extrêmement plats. Ça a été entièrement rénové et donc.
Et en termes, parce que j'ai oublié de le dire, actuellement. Quel serait pour une personne dans cette situation le bateau le plus accessible parmi
Dans ceux qu'on a, il n'y en a pas tant que ça. C'est pour ça qu'on faisait toujours venir le Tenacious, ouais. Qui avait un succès, puis c'était très bien organisé. Les associations qui travaillaient autour des personnes à mobilité réduite, même autour de l'autisme, qui travaillaient également auprès des non-voyants, avaient tout un parcours qui était possible sur ce navire. Parce qu'il avait été conçu par une fondation anglaise, et c'est un très beau voilier, et ça permettait de visiter un voilier intégralement. Ce qui est quasiment impossible sur le Quatemoc. Alors, même moi qui suis totalement valide, mais quand même un peu âgé, la passerelle, je me suis fait peur.
C'est-à-dire qu'effectivement...
S'il pleut, ça glisse. Hein.
C'est-à-dire que... Ayant eu donc une visite presse sur le Quatemoc, c'était
c'est dur. Hein.
Même pour j'ai quelqu'un qui est complètement valide, qui a
bien
fait tomber.
C'est très. Donc il faut comprendre que tous ces navires, c'est là une des complexités, c'est l'accès, et c'est une des choses sur lesquelles on travaille le plus, mais il y a quasiment pas de solution. Et en plus, c'est suivant la marée.
Bien sûr.
Pascal Flores à marée haute, on y monte sans problème. À marée basse, on peut pas y descendre.
Voilà. Et donc. On pourrait
parce
dire...
que pour vos auditeurs qui connaissent pas Rouen, on est dans un port de mer là.
Oui, bien sûr. Oui, on est effectivement dans un port de mer où il y a de la marée,
voilà,
du courant,
exactement.
Et des conditions par rapport au quai. Enfin, je ne suis pas
tout à fait
expert en la matière, mais c'est pour ça que je le redis, il ne s'agit pas de faire de la démagogie.
Non, il s'agit de trouver des pistes de progrès.
De trouver des pistes de progrès. Et donc, on pourrait dire que pour la prochaine édition, vous vous engageriez à trouver des pistes de progrès supplémentaires.
C'est sûr. Chaque année, on se pose la question. On a un référent PMR chez nous, bénévole, et qui passe au crible toutes ces questions-là.
D'accord. Eh bien, je vous remercie.
Ça a été un grand plaisir.
Voilà, merci beaucoup. On se retrouve pour un prochain épisode du podcast Normand.
J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve très vite pour un prochain numéro dans le podcast Normand. À la prochaine.